Depuis quelque temps, répondit-elle, votre fille était devenue extraordinairement romanesque et singulièrement exaltée. Malgré mes soins à combattre cette tendance de son caractère, cela n'est pas clair. Mais, s'imaginant entendre dans le jardin les pas de sa fille et de l'étranger, le général s'interrompit pour ouvrir précipitamment la croisée. Hélène! Cria-t-il. Cette voix se perdit dans la nuit comme une vaine prophétie. En prononçant ce nom, auquel rien ne répondait plus dans le monde, le général rompit, comme par enchantement, le charme auquel une puissance diabolique l'avait soumis. Une sorte d'esprit lui passa sur la face. Il vit clairement la scène qui venait de se passer et maudit sa faiblesse qu'il ne comprenait pas. Un frisson chaud alla de son cœur à sa tête, à ses pieds. Il redevint lui-même, terrible, affamé de vengeance, et poussa un effroyable cri. « Au secours! Au secours !» Il courut au cordon des sonnettes, les tira de manière à les briser, après avoir fait retentir des tintements étranges. Tous ces gens s'éveillèrent en sursaut. Pour lui, criant toujours, il ouvrit les fenêtres de la rue, appela les gendarmes, trouva ses pistolets, les tira pour accélérer la marche des cavaliers, le lever de ses gens et la venue des voisins. Les chiens reconnurent la voix de leur maître et aboyèrent. Les chevaux hennirent et piaffèrent. Ce fut un tumulte affreux au milieu de cette nuit calme. En descendant par les escaliers pour courir après sa fille, le général vit ces gens épouvantés qui arrivaient de toutes parts. « Ma fille, Hélène est enlevée. Allez dans le jardin, gardez la rue. Ouvrez à la gendarmerie, à l'assassin !» Aussitôt, il brisa par un effort de rage la chaîne qui retenait le gros chien de garde. « Hélène ! Hélène ! » lui dit-il. Le chien bondit comme un lion, aboya furieusement et s'élança dans le jardin si rapidement que le général ne put le suivre. En ce moment, le galop des chevaux retentit dans la rue et le général s'empressa d'ouvrir lui-même. « Brigadier ! » s'écria-t-il. « Allez couper la retraite à l'assassin de Monsieur de Mauny. Ils s'en vont par mes jardins. Vite, cernez les chemins de la butte de Picardie. Je vais faire une battue dans toutes les terres, les parcs, les maisons. Vous autres, dit-il à ses gens, veillez sur la rue et tenez la ligne depuis la barrière jusqu'à Versailles. En avant, tous !» Il se saisit d'un fusil que lui apporta son valet de chambre et s'élança dans les jardins en criant aux chiens « Cherche !» D'affreux aboiements lui répondirent dans le lointain, et il se dirigea dans la direction d'où les râlements du chien semblaient venir. À 7 heures du matin, les recherches de la gendarmerie, du général, de ses gens et des voisins avaient été inutiles. Le chien n'était pas revenu. Harassé de fatigue et déjà vieilli par le chagrin, le marquis rentra dans son salon, désert pour lui, quoique ses 3 autres enfants y fussent. « Vous avez été bien froide pour votre fille, » dit-il en regardant sa femme. « Voilà donc ce qui nous reste d'elle, » ajouta-t-il en montrant le métier où il voyait une fleur commencer. « Elle était là tout à l'heure, et maintenant perdue, perdue. » Il pleura, se cacha la tête dans ses mains et resta un moment silencieux, n'osant plus contempler ce salon qui naguère lui offrait le tableau le plus suave du bonheur domestique. Les lueurs de l'aurore luttaient avec les lampes expirantes, les bougies brûlaient leurs festons de papier. Tout s'accordait avec le désespoir de ce père. « Il faudra détruire ceci, » dit-il après un moment de silence et en montrant le métier. « Je ne pourrai plus rien voir de ce qui nous la rappelle. » La terrible nuit de Noël, pendant laquelle le marquis et sa femme eurent le malheur de perdre leur fille aînée, sans avoir pu s'opposer à l'étrange domination exercée par son ravisseur involontaire, fut comme un avis que leur donna la fortune. La faillite d'un agent de change ruina le marquis. Il hypothéqua les biens de sa femme pour tenter une spéculation dont les bénéfices devaient restituer à sa famille toute sa première fortune. Mais cette entreprise acheva de le ruiner. Poussé par son désespoir à tout tenter, le général s'expatria. Six ans s'étaient écoulés depuis son départ, quoique sa famille eût rarement reçu de ses nouvelles. Quelques jours avant la reconnaissance de l'indépendance des républiques américaines par l'Espagne, il avait annoncé son retour. Donc, par une belle matinée, quelques négociants français, impatients de revenir dans leur patrie avec des richesses acquises au prix de longs travaux et de périlleux voyages entrepris, soit au Mexique, soit dans la Colombie, se trouvaient à quelques lieues de Bordeaux, sur un brick espagnol. Un homme, vieilli par les fatigues ou par le chagrin plus que ne le comportaient ses années, était appuyé sur le bastingage et paraissait insensible au spectacle qui s'offrait aux regards des passagers groupés sur le tillac. Échappés aux dangers de la navigation et conviés par la beauté du jour, tous étaient montés sur le pont comme pour saluer la terre natale. La plupart d'entre eux voulaient absolument voir, dans le lointain, les phares, les édifices de la Gascogne, la tour de Cordouan, mêlés aux créations fantastiques de quelques nuages blancs qui s'élevaient à l'horizon. Sans la frange argentée qui badinait devant le brick, sans le long sillon rapidement effacé qu'il traçait derrière lui, les voyageurs auraient pu se croire immobiles au milieu de l'océan, tant la mer y était calme. Le ciel avait une pureté ravissante. La teinte foncée de sa voûte arrivait, par d'insensibles dégradations, à se confondre avec la couleur des eaux bleuâtres, en marquant le point de sa réunion par une ligne dont la clarté scintillait aussi vivement que celle des étoiles. Le soleil faisait étinceler des millions de facettes dans l'immense étendue de la mer, en sorte que les vastes plaines de l'eau étaient plus lumineuses peut-être que les campagnes du firmament. Le brick avait toutes ses voiles gonflées par un vent d'une merveilleuse douceur, et ses nappes aussi blanches que la neige, ses pavillons jaunes flottants, ce dédale de cordage se dessinait avec une précision rigoureuse sur le fond brillant de l'air, du ciel et de l'océan, sans recevoir d'autre teinte que celle des ombres projetées par l'étoile vaporeuse. Un beau jour, un vent frais, la vue de la patrie, une mer tranquille, un bruissement mélancolique, un joli brick solitaire, glissant sur l'océan comme une femme qui vole à un rendez-vous. C'était un tableau plein d'harmonie, une scène d'où l'âme humaine pouvait embrasser d'immuables espaces en partant d'un point où tout était mouvement. Il y avait une étonnante opposition de solitude et de vie, de silence et de bruit, sans qu'on pût savoir où étaient le bruit et la vie, le néant et le silence. Aussi, pas une voix humaine ne rompait-elle ce charme céleste. Le capitaine espagnol, ses matelots, les Français, restaient assis ou debout, tous plongés dans une extase religieuse pleine de souvenirs. Il y avait de la paresse dans l'air. Les figures épanouies accusaient un oubli complet des maux passés, et ces hommes se balançaient sur ce doux navire comme dans un songe d'or. Cependant, de temps en temps, le vieux passager, appuyé sur le bastingage, regardait l'horizon avec une sorte d'inquiétude. Il y avait une défiance du sort écrite dans tous ses traits, et il semblait craindre de ne jamais toucher assez vite la terre de France. Cet homme était le marquis. La fortune n'avait pas été sourde aux cris et aux efforts de son désespoir. Après 5 ans de tentatives et de travaux pénibles, il s'était vu possesseur d'une fortune considérable. Dans son impatience de revoir son pays et d'apporter le bonheur à sa famille, il avait suivi l'exemple de quelques négociants français de la Havane en s'embarquant avec eux sur un vaisseau espagnol en charge pour Bordeaux. Néanmoins, son imagination, lassée de prévoir le mal, lui traçait les images les plus délicieuses de son bonheur passé. En voyant de loin la ligne brune décrite par la terre, il croyait contempler sa femme et ses enfants. Il était à sa place, au foyer, et s'y sentait pressé et caressé. Il se figurait Moïna, belle, grandie, imposante comme une jeune fille. Quand ce tableau fantastique eut pris une sorte de réalité, des larmes roulèrent dans ses yeux. Alors, comme pour cacher son trouble, il regarda l'horizon humide, opposé à la ligne brumeuse qui annonçait la terre. « C'est lui, » dit-il, « il nous suit. »«
Qu'est-ce ? »
s'écria le capitaine espagnol.
« Un vaisseau, »
reprit à voix basse le général.
« Je l'ai déjà vu hier, »
répondit le capitaine Gomez. Il contempla le Français comme pour l'interroger.
« Il nous a toujours donné la chasse, »
dit-il alors à l'oreille du général.
« Et je ne sais pas pourquoi il ne nous a jamais rejoints, »
reprit le vieux militaire.
« Car il est meilleur voilier que votre damné Saint-Ferdinand. »«
Il aura eu des avaries et une voie d'eau. »«
Il nous gagne, »
s'écria le Français.
« C'est un corsaire colombien, »
lui dit à l'oreille le capitaine.
« Nous sommes encore à 6 lieues de terre et le vent faiblit. »«
Il ne marche pas, il vole, comme s'il savait que dans 2 heures sa proie lui aura échappé. Quelle hardiesse !»«
Lui ? »
s'écria le capitaine.
« Ah, il ne s'appelle pas l'Otello sans raison. Il a dernièrement coulé bas une frégate espagnole et n'a cependant pas plus de 30 canons. Je n'avais peur que de lui, car je n'ignorais pas qu'il croisait dans les Antilles. »
« Ah ah !» reprit-il après une pause, pendant laquelle il regarda les voiles de son vaisseau.
« Le vent s'élève, nous arriverons. Il le faut, le Parisien serait impitoyable. »«
Lui aussi arrive !»
répondit le marquis. L'Othello n'était plus guère qu'à 3 lieues. Quoique l'équipage n'eût pas entendu la conversation du marquis et du capitaine Gomez, l'apparition de cette voile avait amené la plupart des matelots et des passagers vers l'endroit où étaient les 2 interlocuteurs. Mais presque tous, prenant le brick pour un bâtiment de commerce, le voyaient venir avec intérêt. Quand tout à coup un matelot s'écria dans un langage énergique
« Par Saint-Jacques, nous sommes flambés, voici le capitaine parisien !»
À ce nom terrible, l'épouvante se répandit dans le brick, et ce fut une confusion que rien ne saurait exprimer. Le capitaine espagnol imprima par sa parole une énergie momentanée à ses matelots, et dans ce danger, voulant gagner la terre à quelque prix que ce fût, il essaya de faire mettre promptement toutes ses bonnettes hautes et basses, tribord et bâbord, pour présenter au vent l'entière surface de toile qui garnissait ses vergues. Mais ce ne fut pas sans de grandes difficultés que les manœuvres s'accomplirent. Elles manquèrent naturellement de cet ensemble admirable qui séduit tant dans un vaisseau de guerre. Quoique l'Othello volât comme une hirondelle, grâce à l'orientation de ses voiles, il gagnait cependant si peu en apparence que les malheureux Français se firent une douce illusion. Tout à coup, au moment où, après des efforts inouïs, le Saint-Ferdinand prenait un nouvel essor, par suite des habiles manœuvres auxquelles Gomez avait aidé lui-même du geste et de la voix, par un faux coup de barre, volontaire sans doute, le timonier mit le brick en travers. Les voiles, frappées de côté par le vent, faséièrent alors si brusquement qu'il vint à masquer en grand. Les boutes or se rompirent et il fut complètement démané. Une rage inexprimable rendit le capitaine plus blanc que ses voiles.
D'un seul bond, il sauta sur le timonier et l'atteignit si furieusement de son poignard qu'il le manqua. Mais il le précipita dans la mer. Puis il saisit la barre et tâcha de remédier au désordre épouvantable qui révolutionnait son brave et courageux navire. Des larmes de désespoir roulaient dans ses yeux. Car nous éprouvons plus de chagrin d'une trahison qui trompe un résultat dû à notre talent que d'une mort imminente. Mais plus le capitaine jura, moins la besogne se fit. Il tira lui-même le canon d'alarme, espérant être entendu de la côte. En ce moment, le corsaire, qui arrivait avec une vitesse désespérante, répondit par un coup de canon, dont le boulet vint expirer à 10 toises du Saint-Ferdinand. « Tonnerre ! » s'écria le général. « Comme c'est pointé ! Ils ont des caronades faites exprès !»
Oh, celui-là, voyez-vous, quand il parle, il faut se taire, répondit un matelot.
Le Parisien ne craindrait pas un vaisseau anglais.
Tout est dit, s'écria dans un accent de désespoir le capitaine, qui, ayant braqué sa longue vue, ne distingua rien du côté de la terre.
Nous sommes encore plus loin de la France que je ne le croyais.
Pourquoi vous désoler, reprit le général.
Tous vos passagers sont français, ils ont frété votre bâtiment. Ce corsaire est un Parisien, dites-vous.
Eh bien, hissez pavillon blanc et...
Et il nous coulera, répondit le capitaine. N'est-il pas, suivant les circonstances, tout ce qu'il faut être quand il veut s'emparer d'une riche proie?
Ah, si c'est un pirate!
Pirate, dit le matelot d'un air farouche. Ah, il est toujours en règle, où sait s'y mettre ?
Eh bien, s'écria le général en levant les yeux au ciel, résignons-nous !
Et il eut encore assez de force pour retenir ses larmes. Comme il achevait ces mots, un second coup de canon, mieux adressé, envoya dans la coque du Saint-Ferdinand un boulet qui la traversa.
Mettez en panne, dit le capitaine d'un air triste.
Et le matelot, qui avait défendu l'honnêteté du Parisien, aida fort intelligemment à cette manœuvre désespérée. L'équipage attendit, pendant une mortelle demi-heure, en proie à la consternation la plus profonde. Le Saint-Ferdinand portait en piastres 4 millions, qui composaient la fortune de 5 passagers, et celle du général était de 1 100 000 francs. Enfin, l'Othello, qui se trouvait alors à 10 portées de fusil, montra distinctement les gueules menaçantes de 12 canons, prêts à faire feu. Il semblait emporté par un vent que le diable soufflait exprès pour lui. Mais l'œil d'un marin habile devinait facilement le secret de cette vitesse. Il suffisait de contempler, pendant un moment, l'élancement du brick, sa forme allongée, son étroitesse, la hauteur de sa mâture, la coupe de sa toile, l'admirable légèreté de son gréement et l'aisance avec laquelle son monde de matelots, uni comme un seul homme, ménageait le parfait orientement de la surface blanche présentée par ses voiles. Tout annonçait une incroyable sécurité de puissance dans cette svelte créature de bois, aussi rapide, aussi intelligente que l'est un coursier ou quelque oiseau de proie. L'équipage du corsaire était silencieux et prêt, en cas de résistance, à dévorer le pauvre bâtiment marchand, qui, heureusement pour lui, se tint quoi, semblable à un écolier pris en faute par son maître.
« Nous avons des canons !» s'écria le général en serrant la main du capitaine espagnol.
Ce dernier lança au vieux militaire un regard plein de courage et de désespoir en lui disant « Et des hommes ?» Le marquis regarda l'équipage du Saint-Ferdinand et frissonna. Les 4 négociants étaient pâles, tremblants, tandis que les matelots, groupés autour d'un des leurs, semblaient se concerter pour prendre parti sur l'Othello. Ils regardaient le corsaire avec une curiosité cupide. Le contremaître, le capitaine et le marquis échangeaient seuls, en s'examinant de l'œil, des pensées généreuses. Ah, capitaine Gomez, j'ai dit autrefois adieu à mon pays et à ma famille, le cœur mort d'amertume. Faudra-t-il encore les quitter au moment où j'apporte la joie et le bonheur à mes enfants? Le général se tourna pour jeter à la mer une larme de rage et y aperçut le timonier nageant vers le corsaire. « Cette fois, répondit le capitaine, vous lui direz sans doute adieu pour toujours. » Le Français épouvanta l'Espagnol par le coup d'œil stupide qu'il lui adressa. En ce moment, les deux vaisseaux étaient presque bord à bord, et à l'aspect de l'équipage ennemi, le général crut à la fatale prophétie de Gomez. Trois hommes se tenaient autour de chaque pièce. À voir leur posture athlétique, leurs traits anguleux, leurs bras nus et nerveux, on les eût pris pour des statues de bronze. La mort les aurait tués sans les renverser. Les matelots, bien armés, actifs, lestes et vigoureux, restaient immobiles. Toutes ces figures énergiques étaient fortement basanées par le soleil, durcies par les travaux. Leurs yeux brillaient comme autant de pointes de feu et annonçaient des intelligences énergiques, des joies infernales. Le profond silence régnant sur ce tillac, noir d'hommes et de chapeaux, accusait l'implacable discipline sous laquelle une puissante volonté courbait ces démons humains. Le chef était au pied du grand mât, debout, les bras croisés, sans armes. Seulement une hache se trouvait à ses pieds. Il avait sur la tête, pour se garantir du soleil, un chapeau de feutre à grands bords, dont l'ombre lui cachait le visage. Semblables à des chiens couchés devant leur maître, canonniers, soldats et matelots tournaient alternativement les yeux sur leur capitaine et sur le navire marchand. Quand les deux briques se touchèrent, la secousse tira le corsaire de sa rêverie, et il dit deux mots à l'oreille d'un jeune officier qui se tenait à deux pas de lui. « Les grappins d'abordage !» cria le lieutenant. Et le Saint-Ferdinand fut accroché par l'Othello avec une promptitude miraculeuse. Suivant les ordres donnés à voix basse par le corsaire et répétés par le lieutenant, les hommes désignés pour chaque service allèrent, comme des séminaristes marchant à la messe, sur le tillac de la prise lier les mains aux matelots, aux passagers et s'emparer des trésors. En un moment, les tonnes pleines de piastres, les vivres et l'équipage du Saint-Ferdinand furent transportés sur le pont de l'Othello. Le général se croyait sous la puissance d'un songe quand il se trouva les mains liées et jetées sur un ballot, comme s'il eût été lui-même une marchandise. Une conférence avait lieu entre le corsaire, son lieutenant et l'un des matelots qui paraissait remplir les fonctions de contremaître. Quand la discussion, qui dura peu, fut terminée, le matelot siffla ses hommes, sur un ordre qu'il leur donna, ils sautèrent tous sur le Saint-Ferdinand, grimpèrent dans les cordages et se mirent à le dépouiller de ses vergues, de ses voiles, de ses agrès, avec autant de prestesse qu'un soldat déshabille sur le champ de bataille un camarade mort dont les souliers et la capote étaient l'objet de sa convoitise. « Nous sommes perdus !» dit froidement au marquis, le capitaine espagnol, qui avait épié de l'œil les gestes des trois chefs pendant la délibération et les mouvements des matelots qui procédaient au pillage régulier de son brick. « Combien ?» demanda froidement le général. « Que voulez-vous qu'ils fassent de nous ?» répondit l'Espagnol. « Ils viennent sans doute de reconnaître qu'ils vendraient difficilement le Saint-Ferdinand dans les ports de France ou d'Espagne, et ils vont le couler pour ne pas s'en embarrasser. Quant à nous, croyez-vous qu'ils puissent se charger de notre nourriture lorsqu'ils ne savent dans quel port relâcher ?» À peine le capitaine avait-il achevé ces paroles que le général entendit une horrible clameur suivie du bruit sourd causé par la chute de plusieurs corps tombant à la mer. Il se retourna et ne vit plus que les quatre négociants. Huit canonniers à figure farouche avaient encore les bras en l'air au moment où le militaire les regardait avec terreur.
« Quand je vous le disais, » lui dit froidement le capitaine espagnol. Le marquis se releva brusquement. La mer avait déjà repris son calme. Il ne put même pas voir la place où ses malheureux compagnons venaient d'être engloutis. Il roulait en ce moment, pieds et poings liés, sous les vagues, si déjà les poissons ne les avaient dévorés. À quelques pas de lui, le perfide timonier et le matelot du Saint-Ferdinand, qui vantaient naguère la puissance du capitaine parisien, fraternisaient avec les corsaires et leur indiquaient du doigt ceux des marins du brick qu'ils avaient reconnus dignes d'être incorporés à l'équipage de l'Othello. Quant aux autres, deux mousses leur attachaient les pieds, malgré d'affreux jurements. Le choix terminé, les huit canonniers s'emparèrent des condamnés et les lancèrent, sans cérémonie, à la mer. Les corsaires regardaient avec une curiosité malicieuse les différentes manières dont ces hommes tombaient, leurs grimaces, leurs dernières tortures. Mais leurs visages ne trahissaient ni moquerie, ni étonnement, ni pitié. C'était pour eux un événement tout simple auquel ils semblaient accoutumés. Les plus figés contemplaient de préférence, avec un sourire sombre et arrêté, les tonneaux pleins de piastres déposés au pied du grand mât. Le général et le capitaine Gomez, assis sur un ballot, se consultaient en silence par un regard presque terne. Ils se trouvèrent bientôt les seuls qui survécussent à l'équipage du Saint-Ferdinand. Les saints matelots, choisis par les deux espions parmi les marins espagnols, s'étaient déjà joyeusement métamorphosés en péruviens.
« Quels atroces coquins !»
s'écria tout à coup le général, chez qui une loyale et généreuse indignation fit taire et la douleur et la prudence.
« Ils obéissent à la nécessité, » répondit froidement Gomez. « Si vous retrouviez un de ces hommes-là, ne lui passeriez-vous pas votre épée au travers du corps ?»«
Capitaine, » dit le lieutenant en se retournant vers l'Espagnol, « le Parisien a entendu parler de vous. »«
Vous êtes, » dit-il, « le seul homme qui connaissiez bien les débouquements des Antilles et les côtes du Brésil. Voulez-vous... »
Le capitaine interrompit le jeune lieutenant par une exclamation de mépris et répondit
« Je mourrai en marin, en espagnol fidèle, en chrétien, entends-tu ?»«
À la mer !» cria le jeune homme. À cet ordre, deux canonniers se saisirent de Gomez.
« Vous êtes des lâches !»
s'écria le général en arrêtant les deux corsaires.
« Mon vieux, lui dit le lieutenant, ne vous emportez pas trop. Si votre ruban rouge fait quelque impression sur notre capitaine, moi je m'en moque. Nous allons avoir aussi tout à l'heure notre petit bout de conversation. »
En ce moment, un bruit sourd, auquel nulle plainte ne se mêla, fit comprendre au général que le brave Gomez était mort en marin.
« Ma fortune ou la mort !»
s'écria-t-il dans un effroyable accès de rage.
« Ah ah, vous êtes raisonnable !» lui répondit le corsaire en ricanant. « Maintenant, vous êtes sûr d'obtenir quelque chose de nous. »
Puis, sur un signe du lieutenant, deux matelots s'empressèrent de lier les pieds du Français. Mais ce dernier, les frappant avec une audace imprévue, tira, par un geste auquel on ne s'attendait guère, le sabre que le lieutenant avait au côté et se mit à en jouer lestement en vieux général de cavalerie qui savait son métier.
« Ah, brigand, vous ne jetterez pas à l'eau comme une huître un ancien troupier de Napoléon !»
Des coups de pistolet, tirés presque à bout portant sur le Français récalcitrant, attirèrent l'attention du Parisien, alors occupé à surveiller le transport des agrès qu'il ordonnait de prendre au Saint-Ferdinand. Sans s'émouvoir, il vint saisir par derrière le courageux général, l'enleva rapidement, l'entraîna vers le bord et se disposait à le jeter à l'eau comme un espar de rebut. En ce moment, le général rencontra l'œil fauve du ravisseur de sa fille. le père et le gendre se reconnurent tout à coup. Le capitaine, imprimant à son élan un mouvement contraire à celui qu'il lui avait donné, comme si le marquis ne pesait rien, loin de le précipiter à la mer, le plaça debout près du grand mât. Un murmure s'éleva sur le tillac. Mais alors, le corsaire lança un seul coup d'œil sur ses gens, et le plus profond silence régna soudain. « C'est le père d'Hélène, » dit le capitaine d'une voix claire et ferme. « Malheur à qui ne le respecterait pas !»